Il est 19h30 ici à Paris, l'heure est au débat sur RFI. Et ce débat est vif à nouveau en France. La question de la fin de vie revient dans l'actualité après que le président Emmanuel Macron a présenté le mois dernier les grandes lignes d'un projet de loi qui prévoit la création d'une aide à mourir. Le texte a été transmis au Conseil d'État. Il sera examiné au Parlement à partir de la fin du mois de mai. Et il provoque, ce texte, eh bien, une levée de bouclier d'une grande partie des soignants. Face à cette perspective d'aide à mourir, ils défendent leur devoir de soigner. D'où notre question ce soir. Est-ce qu'il faut opposer ces deux notions, aide à mourir et devoir de soigner? Où doit se situer la responsabilité de tous ces médecins? Et est-ce qu'aider à mourir, eh bien, c'est abandonner les patients? Soyez les bienvenus dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Martine Lombard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite de droit public à l'université Paris Panthéon Assas, auteur du livre L'Ultime Demande. Face à vous, Bruno Dalla Porta, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin, néphrologue, spécialiste en éthique médicale et en philosophie appliquée à la santé, co-auteur du livre Tuer les gens, tuer la terre. Notre troisième invité également en studio avec nous, bonsoir, François Blot.
Bonsoir.
Praticien, hospitalier en réanimation à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, auteur de l'ouvrage Faut-il légaliser l'aide médicale à mourir? Tiens, c'est une bonne question qui est au cœur de notre réflexion ce soir. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors d'abord, je voudrais savoir comment vous avez réagi à l'annonce de ce projet de loi, parce que ça fait longtemps que des voix s'élèvent pour demander à faire plus que ce que la loi Claeys-Leonetti de 2016 propose. Elle permet, cette loi, on le rappelle aujourd'hui, hein, en France, la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Le texte qui va être prochainement examiné au Parlement fixe le cadre d'une aide à mourir, être atteint d'une maladie incurable qui menace ses jours, je cite, à court ou moyen terme, et présenter, je cite également, une souffrance physique ou psychologique réfractaire ou insupportable. Je peux commencer avec vous, Bruno Dalla Porta. Ça vous inspire quoi, ce texte?
Merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais dire que il n'y a pas deux camps, les religieux conservateurs et ensuite les progressistes. Il y a en fait une troisième voie qui sont les valeurs du soin. Et en fait, je viens là au nom des valeurs du soin que j'incarne. Et moi, je suis médecin, je suis philosophe, donc je suis médecin au chevet des personnes en fin de vie. Mais je suis aussi compétent en philosophie appliquée à la santé. Je pense que les valeurs du soin, ça n'a rien à voir avec un point de vue religieux. Donc il y a souvent un amalgame dans les médias, je voudrais vraiment préciser ça. Je suis absolument pas dans un point de vue conservateur, mais au contraire de nouvelles valeurs pour une nouvelle société.
Mais on n'évoque pas la religion, mais quelles sont les valeurs du soin selon vous? Et est-ce qu'elles sont opposées au droit au droit de mourir?
Déjà, il faut voir que les valeurs du soin sont des véritables valeurs de la démocratie. Les infirmières, les professionnels de santé sont des vrais combattants de la démocratie avec ces valeurs du soin. Les valeurs du soin, pour répondre à votre question, c'est une responsabilité à l'égard de la vulnérabilité, c'est une hospitalité, ce sont des reconnaissances réciproques. Ce n'est pas une économie marchande, c'est une économie du don et contre-don. Et donc, c'est un trésor de notre civilisation. Et les valeurs du soin sont invisibilisées actuellement. Les infirmières souffrent, elles partent, les professionnels sont disqualifiés. Et en fait, les valeurs du soin, c'est un trésor civilisationnel pour l'avenir. Même, c'est un trésor de la démocratie, c'est un trésor même de l'écologie. Parce que le soin qu'on porte à une personne nous dit probablement quelque chose du soin qu'il faudrait porter à un terre malade, etc. Donc en fait, les valeurs du soin, elles sont invisibilisées, ouais. Et maintenant, on veut y introduire la mort. Donc ça me pose un problème, parce que ce sont des valeurs de demain et des valeurs de l'avenir pour notre société.
Introduire l'aide à mourir, c'est un recul des valeurs du soin, selon vous?
Ah, pour moi, ça ne fait pas partie des valeurs du soin.
Mmh. Mais beaucoup de soignants ont dit cette phrase, la mort n'est pas un soin, mais ça fait débat. Pour vous, la mort n'est pas un soin, on peut le dire ainsi?
Ah oui, pour moi, les valeurs du soin, c'est du côté de la vie. C'est une éthique de vie, c'est pas une éthique de mort, oui.
Ouais. François Blot, la mort n'est pas un soin, ça vous inspire quoi, cette phrase? Qui a été effectivement brandie par de nombreux soignants à l'annonce de ce projet de loi qui va être examiné prochainement en France?
Alors ça m'inspire un désaccord pour ma part. J'estime que nous sommes au service des patients, de leur écoute. Nous ne sommes pas au service de la vie, parce que la vie, il y en a plusieurs. Elles ont plusieurs types de durée, plusieurs types de qualité, plusieurs types de forme, plusieurs types de valeurs. Et la valeur suprême pour moi est l'écoute de la personne malade et de ce qu'elle entend comme étant pour elle la valeur du soin que nous allons lui apporter et non pas le préjugé que j'en fais. Et quand j'entends « on veut y introduire la mort », je m'inscris en faux contre ça, parce que la mort elle est déjà là. Elle fait partie de la vie et elle est éminemment présente tout au long des parcours de fin de vie, évidemment, cet altruisme. Donc, on aménage ou on va peut-être considérer l'abord de la mort de façon différente, mais on ne va pas l'introduire.
Alors c'est intéressant parce que vous êtes finalement deux médecins, en tout cas deux personnes membres de la santé, même si vous occupez pas le même poste, et vous n'êtes pas d'accord sur ce projet de loi qui donc propose la création d'une aide à mourir. Mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord d'abord pour des raisons finalement qui sont philosophiques? Parce que vous avez directement, François Blot, évoqué la mort doit faire partie de la vie. Est-ce que, malgré le fait que vous soyez tous deux soignants, la réponse, elle est philosophique à cette question? Je vais redonner la parole à Bruno Dalla Porta.
En fait, il faut le problème du mot aide à mourir, c'est en fait pour moi un grand brouillard. Je vais être un peu direct, qui est un enfumage en fait. Hein. Il faut clarifier les enjeux philosophiquement là pour le coup. Ouais. Je vais prendre mon temps. En fait, il y a au moins 5 situations qui relient l'acte médical et la mort. Vous avez premièrement l'abstention. Par exemple, vous ne transférez pas un malade en réanimation qui a 90 ans, qui a le Covid, au risque d'accélérer la mort. Abstention. Deuxièmement, vous avez l'antalgie. Une personne a des métastases osseuses très douloureuses, vous prescrivez des sédatifs et des antalgiques puissants au risque d'accélérer la mort. Troisièmement, vous avez les limitations et arrêts de traitement. Par exemple, en dialyse, je suis néphrologue, on peut arrêter un traitement vital au risque d'accélérer la mort. Quatrièmement, vous avez le suicide médicalement, le suicide assisté. Vous donnez à la personne un poison qu'elle absorbera elle-même ou une perfusion qu'elle déclenche. Et cinquièmement, vous avez l'euthanasie, qui est le fait qu'un médecin provoque délibérément la mort. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait,
le point 4 et le point 5, en gros, sont prévus, sont nommés ainsi dans le projet de loi.
Exactement.
Français.
Dans la loi, quand Emmanuel Macron fait son article, il parle d'aide à mourir, mais tout le monde doit être aidé à mourir. Donc en fait, le terme est extrêmement perturbateur en termes de com. C'est-à-dire que 100% des personnes devraient être OK pour être aidé à mourir. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'entre le cas 1, 2, 3, 4, 5, il y a un crescendo quantitatif et qualitatif dans la gravité morale. Et c'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que c'est pas tellement sur le fait que ce soit la vie ou la mort. C'est-à-dire que dans les cas 1, 2, 3, 4, 5, il y a un crescendo en termes de gravité morale. C'est-à-dire que le 1 est moins grave que le 2, que le 3, que le suicide et que l'euthanasie. Et deuxièmement, il y a une rupture qualitative entre le 1, 2, 3 et 4, 5. Et c'est là que se passe tout l'enjeu de votre question. C'est-à-dire que le 1, 2, 3, c'est-à-dire abstention, antalgie, arrêt de traitement, la personne va mourir du fait de la maladie. Elle va mourir du fait des choses. Et finalement, le médecin se sent relativement, quelque part, innocent par rapport à ça. C'est-à-dire que si je ne fais pas une troisième ligne de chimiothérapie à une personne qui va mourir, en réalité, 5 ans après, 10 ans après, mon intégrité morale n'est pas attaquée. Tandis que dans le cas 4 et 5, la rupture vient du fait que c'est l'humain qui fait quelque chose à l'humain. C'est l'humain qui crée quelque chose à l'humain. Et dans ce cas-là, c'est complètement différent. Et ce qu'il faut voir, c'est que le 1, 2, 3, 4, 5, c'est entre le 1, 2, 3 et 4, 5 que se trouve l'interdit de donner la mort. C'est là qu'il est. Mmh. Et en réalité, dans les médias, on mélange tout, tout est confus, il n'y a que des amalgames et les citoyens ne se retrouvent pas. C'est-à-dire que ils vont dire « je suis pour l'euthanasie parce que je ne veux pas souffrir » et en fait, c'est le cas numéro 2 qui est le cas de par exemple, les sédatifs. Où il va dire « je trouve que c'est insupportable le pouvoir abusif des médecins, je trouve l'acharnement thérapeutique insupportable, il faut pouvoir lutter contre ça. » Or, c'est le 3. Et donc, en fait, il n'y a que des amalgames. D'accord. Que des confusions et on ne sait pas de quoi on parle. Donc le vrai débat philosophique, il se situe à ce niveau. Et il y a des pays qui sont discontinuistes comme la France depuis 2005 qui considèrent que 1, 2, 3, ce sont des bonnes pratiques médicales, c'est du soin. On accompagne, on estime, on considère, on soulage. Et 4, 5, c'est une transgression. Ouais. Et donc tout l'enjeu, c'est savoir s'il y a une rupture entre 1, 2, 3 et 4, 5.
Mais la question, c'est aussi de savoir si... Ça fait partie aussi du rôle du médecin, et c'est la question de notre débat ce soir, 4 et 5, comme vous dites, euthanasie, suicide assisté, voilà. Est-ce que ça fait pas partie aussi du rôle du médecin, et est-ce que ça peut ne pas être considéré comme un soin? Martine Lombard.
Oui, je viens d'écouter ce qui a été dit, et je réagis comme malade et comme juriste, comme personne âgée en tout cas.
Ouais.
Je dois dire que ce que vient de dire Bruno Dalla Porta est un grand classique, en fait, de l'opposition à l'aide à mourir. Et je vais revenir ensuite sur le mot même, l'expression « aide à mourir ». C'est un grand classique, c'est la distinction qui existe depuis des décennies, qui existe même dans la le catéchisme de l'Église catholique d'ailleurs, entre laisser mourir, qui serait autorisé, 1, 2, 3, on peut le distinguer comme ça, 1, 2, 3, abstention.
Ça fait deux fois qu'on évoque la religion dans un débat qui,
oui,
à la base, est censé être un débat de santé. C'est intéressant, non, mais ça montre que la frontière est très fine.
Elle est dans le catéchisme de l'Église catholique. Parce que c'est vraiment un grand classique. C'est la distinction entre le laisser mourir et le faire mourir. Et pour le moment, tout le modèle français est bâti là-dessus, sur la distinction entre laisser mourir et faire mourir, si ce n'est que la France n'est pas si discontinuiste que vient de le dire Bruno de la Porta, en ce sens qu'en France, il y aurait vraiment une cloison totale. Parce que lui-même, d'ailleurs, l'écrit dans son livre, au titre assez agressif d'ailleurs, hein, « Tuer les gens, tuer la terre ». En fait, nous avons en France une sédation profonde et continue jusqu'au décès, ouais, qui, de son point de vue, est déjà une façon de faire mourir. Parce que quand on donne une sédation profonde et continue jusqu'au décès, il est clair qu'à la fin, le malade sera mort. Donc, ce n'est pas si clair que ça, en France, pour le moment, cette distinction. Mais dans les esprits, notamment dans les esprits des soignants, cela reste souvent une distinction majeure, qui était dans la loi Leonetti, notamment, de 2005. De 2016, c'est donc un peu plus compliqué, comme vous venez de le dire, avec la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Cette distinction devrait enfin cesser avec le projet de loi sur l'accompagnement de la fin de vie qui a été proposé et qui porte bien sur l'aide à mourir. Et là, je voudrais dire que les mots sont importants. Car j'ai vu que Bruno de la Porta aime beaucoup les mots « tuer » et les mots « euthanasie ». L'euthanasie a un gros défaut comme mot, c'est qu'il est polysémique. Il s'applique aussi bien à une demande qui est faite par un malade, qui demande à un médecin « aidez-moi à mourir », comme en Belgique. Mais l'euthanasie peut s'appliquer aussi à l'extermination des handicapés, comme elle a eu lieu en Allemagne nazie entre 1939 et 1941. Donc le mot euthanasie permet deux registres. L'un, je réponds à une demande d'être à mourir, l'autre, j'extermine. Et sans cesse, dans son livre en tout cas, Bruno de la Porta passe d'un registre à l'autre, ouais, comme s'ils étaient confondus.
Je me permets d'intervenir, Martine Lombard, parce que la question n'est pas pour ou contre l'euthanasie. Ce soir, la question c'est par rapport à ce projet de loi de fin de vie, notamment, et on va pouvoir donner des exemples à l'étranger, est-ce qu'il faut opposer le droit à mourir et le devoir de soigner? Parce que c'est ce qu'ont évoqué de nombreux soignants. Moi, je voudrais savoir quelle est, sur cette question-là de l'aide à mourir, la responsabilité des médecins, selon vous.
Je vais répondre quand même. Ouais. Est-ce qu'il faut opposer les deux? C'est un raccourci facile que d'opposer les deux. Mais en fait, les soins butent pour le moment sur ce qui est, je dirais, l'éléphant dans notre studio, l'éléphant dans la pièce, les souffrances réfractaires. Car il y a un moment où le soignant ne peut plus apaiser les douleurs. Et la grande innovation même, de ces trois dernières années, c'est que, enfin, des organismes comme le Comité consultatif national d'éthique en France, ou comme l'Académie de médecine en France, ont reconnu l'existence de ces souffrances réfractaires, définies comme des souffrances que ni les soins curatifs, ni les soins palliatifs ne peuvent apaiser. Ça, c'est vraiment l'éléphant dans la pièce.
Bruno de la Porta, est-ce qu'apaiser les douleurs en donnant la mort, c'est le rôle du médecin? Et dans ce cadre-là, est-ce que c'est apporter un soin?
Alors, d'abord, il faut voir qu'on est en train de faire un effet de loupe sur quelque chose d'exceptionnel. Je travaille en dialyse avec des personnes extrêmement âgées, extrêmement épuisées, extrêmement douloureuses. Et si vous venez demain dans mon service, on a 150 personnes, vous ne verrez aucune demande d'euthanasie. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Donc, l'éléphant dans la pièce, d'accord, il n'est pas si gros que ça. Par exemple, dans mon autre service, j'ai repris les 200 derniers décès, parce que leur mortalité est extrêmement forte. Sur 200 décès, on a eu 1% de vraies demandes d'aide à mourir. La moitié de ces 1% ont cédé lorsqu'on a soulagé la souffrance, et donc il en reste 0,5%. On peut chipoter, ouais, sur les chiffres, mais en fait, nos réunions, nos staffs ne sont absolument pas embouteillés par le fait de savoir s'il faut procéder à de l'euthanasie.
Après, on ne sait pas ce qui se passera après possible adoption du projet de loi qui prévoit cette création de l'aide à mourir. Ça peut aussi débloquer les possibilités.
Bien sûr, ça change les normativités, ça c'est évident, ça crée des implicites, c'est évident.
François Blot, est-ce que vous êtes praticien hospitalier en réanimation à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, est-ce que pratiquer l'aide à mourir vous poserait problème en tant que justement praticien?
Alors évidemment, ça me poserait problème parce que tout acte médical pose problème et pose interrogation et pose des dilemmes. Donc bien entendu, la réflexion avant de pratiquer un tel geste, même si la conclusion serait au final positive, serait assortie d'une méticulosité et d'une précaution infinie. Quoi qu'il arrive, donc ça me poserait problème au sens où effectivement il y aurait un cheminement qui n'irait pas de soi et qui ne serait pas. Je lis aussi quand je lis les lignes de Bruno Dallaporta, le mot procédural, un peu le côté comme s'il y avait des cases à cocher. Je l'entends aussi par certains de mes collègues des soins palliatifs. Il est hors de question de céder à ça et de rentrer dans quelque chose qui serait effectivement une espèce de nouvelle normativité un petit peu rapide et qui donc exclurait toute forme de questionnement professionnel. Donc oui, ça me poserait problème. En tout cas, ça me poserait des interrogations. Mais au final, face à certaines demandes et que j'ai eu à rencontrer, je pense que depuis 20 à 30 ans de réanimation, on va dire, j'ai rencontré et aidé réellement, accompagné le processus de fin de vie pour plus de 2000 voire 3000 personnes. Donc quelque chose que j'ai déjà franchement vécu, et ceci inclut a inclus des demandes d'aide active à mourir. Je ne me place pas, bien que formé un petit peu aussi à la philosophie, au rang de Dieu ou du philosophe. Je suis à l'échelle de l'homme tout simplement, et je ne sais pas quoi répondre.
À l'échelle du soignant, particulièrement. Pardon ? À l'échelle du soignant, encore plus qu'à l'échelle de l'homme. Donc vous êtes la première personne qui serait concernée.
À l'échelle du soignant et à l'échelle de l'homme qui est en face de moi et qui me parle. Et je ne sais pas comment répondre avec les outils législatifs actuels à Vincent Imbert, à Anne Baer, à Ramon San Pedro, à Lisiane, qui est le surnom que j'ai donné à une de nos patientes, à Aurélie, qui est son vrai prénom, et des cas donc qui ne se comptent pas sur les doigts d'une seule demi-main. Donc évidemment, les demandes sont probablement très très faibles, elles sont probablement éteintes, et tant mieux dans une grande majorité de cas, par la discussion qu'on a en tant que professionnel avec les patients. Mais elles sont d'autant moins dites que, à partir du moment où on n'a pas le droit de demander quelque chose, bah, on le range, on le demande pas. Ça mérite d'être quand même questionné. Quelle est la part de censure implicite
Bien sûr.
Que nous, soignants, nous plaçons, nous imposons à des patients qui aimeraient avoir accès à, et qui, sachant que de toute façon, bah, ils n'y auront pas accès, se débrouillent autrement.
Qu'est-ce que vous répondez à Bruno Dallaporta, qui, dans une tribune que vous avez co-signée dans le Figaro, écrit « L'interdit de tuer est la condition », alors désolé pour reprendre le mot « tuer », « est la condition qui nous oblige à rester créatifs dans le soin ».
Oui, oui. Alors, le fait de rester créatif dans le soin ne me paraît pas lié à l'interdit ou pas de tuer. Enfin, la créativité, on peut l'avoir dans toute l'humanité qu'on va offrir à la personne qui demande, qui dit simplement « j'en ai marre de vivre » ou qui va le demander de façon plus conséquente, plus réitérée, etc. Donc, effectivement... Ça fait partie de notre métier d'être inventif en permanence, mais qu'il y ait ou pas aide active à mourir. Et je ne sens pas dans cet acte potentiel, s'il était légalisé, le poids de tuer. C'est ce qui va tuer le patient, c'est sa maladie. Par contre, il me demande une certaine assistance pour que les conditions et le moment lui soient un peu moins imposés. C'est tout.
Vous êtes d'accord pour dire que ce moment-là, il est quand même délicat à définir. À quel moment est-ce que l'aide à mourir doit prendre le relais du devoir de soigner?
Alors, déjà, je me permets de corriger votre phrase, c'est pas le relais du devoir de soigner, c'est une poursuite, pour moi, c'est une modalité, mais dans des cas, effectivement, là je rejoins quand même Bruno Dallaporta, qui seront très à la marge, en effet. Alors, si on regarde les pays du nord de l'Europe, 3-4% peut-être, mais en tout cas plus que 0,5%, mais en Oregon 0,6% des décès. Donc, on sera effectivement, non pas dans l'éléphant dans la pièce, mais dans quelque chose qui sera à la marge, mais qui pour autant existe. Donc, à partir de quel moment? À partir du moment où il y a une attention méticuleuse portée par le corps médical, mais également éventuellement d'autres personnes du monde civil, si je puis dire, qui écouteront quelle est la stabilité de cette demande, est-ce qu'elle est réitérée, quel est le pronostic de cette personne. Moi, j'aime bien attribuer, comme on parle de présomption d'innocence en droit, la présomption d'autonomie, c'est-à-dire de pas considérer que les gens sont un peu stupides par nature, ou que les citoyens se sont fait enfumer, comme j'ai entendu le mot tout à l'heure, parce qu'ils connaissent pas les 5 grands niveaux de la fin de vie. C'est un peu faire injure aux 184 personnes qui, 9 fois 3 jours, se sont réunies et, dans un processus de démocratie délibérative extrêmement précis, sont montées en compétences et ont fini par conclure des choses. Évidemment, les 75,6% des personnes qui sont déclarées favorables à l'aide active à mourir, parmi elles, probablement, il y en a peut-être même pas une qui le demandera de fait. Mais elle demande à ce que cette possibilité soit envisagée. Et moi, j'aime bien considérer mes interlocuteurs comme des gens intelligents.
RFI, le débat du jour. Romain Ozoui.
Fin de vie, faut-il opposer droit à mourir et devoir de soigner, la question qu'on pose ce soir, question vive en France, car un projet de loi sera examiné à partir de la fin du mois de mai au Parlement sur ce sujet. Il a été, ce projet de loi, transmis il y a peu au Conseil d'État. Mes trois invités, François Blot, que l'on vient d'entendre, praticien hospitalier en réanimation à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, Bruno Dallaporta, médecin néphrologue, spécialiste en éthique médicale et en philosophie appliquée à la santé, et puis Martine Lombard, professeur émérite de droit public à l'université Paris-Panthéon-Assas. Martine Lombard, je vais vous donner la parole justement en tant que professeur émérite de droit public. Est-ce que, parce que l'article 7 du projet de loi évoque l'administration d'une substance létale effectuée par la personne elle-même, mais sur décision et du médecin, en tout cas suite à la demande faite par le patient, est-ce que c'est au médecin de prendre cette décision-là? François Blot évoquait le cadre qui pourrait être là. On a évoqué des comités d'éthique. Comment cette décision, et là encore une fois c'est la passerelle entre devoir de soigner et droit de mourir, comment cette décision peut-elle être prise en concertation?
Bon, d'abord j'y vois plutôt continuité, n'est-ce pas?
Oui, pour prendre la suite de ce que disait François Blot.
Reprenons. Effectivement, vous l'avez dit, dans un premier temps, il y a la demande faite par le malade. Ça, c'est vraiment essentiel à comprendre. Et si on nie cette demande, si on nie la valeur de cette demande, alors on passe à côté de l'énorme tabou. Je maintiens l'éléphant dans la pièce, c'est ce tabou. Il ne faut surtout pas parler de ceux qui souffrent tellement qu'ils demandent à être aidés à mourir. Et il faudrait bien respecter quand même leur volonté. Moi, je me suis fait agresser, en fait, par le livre de Bruno Dallaporta en tant que personne âgée et qui souhaite plutôt une aide à mourir, parce que il part du principe que toute personne qui demande une aide à mourir a intériorisé les normes d'une société qui, selon lui, valorise essentiellement les valeurs du marché, les valeurs de la performance, et qu'on a tellement intériorisé ça qu'en fait on n'est pas libre. Bon, mais donc j'y reprends. Oui. Il y a une demande.
Je vous demande de répondre à la question plutôt que de répondre au livre de Monsieur Dallaporta.
Ensuite, donc ce médecin, plutôt ces médecins d'ailleurs, qui vont devoir constater si le malade remplit ou non les conditions qui sont une maladie grave et incurable, une souffrance réfractaire ou insupportable, et si donc il peut être écouté dans sa demande. Alors, parler de décision, ce serait plutôt le mot constat qui serait le plus approprié. Le médecin constate, oui, que cette demande est légitime. Et ensuite, donc,
cette base, elle est fragile. C'est ce qu'on disait avec François Blot. Cette base est fragile de faire ce constat-là, selon le patient, que le médecin en face de lui.
Elle est fragile. Disons qu'elle suppose d'avoir bien écouté le patient. Et de façon constante, répétée, le patient s'exprime. On peut partir du principe qu'on ne l'écoute jamais.
Mais ça vous semble suffisant que le médecin, que ce soit par exemple le médecin traitant, le médecin généraliste qui suit le patient, soit celui qui recueille cette parole-là?
Dans tous les pays, en fait, ce sont plusieurs médecins, deux ou trois parfois, qui écoutent le médecin, qui écoutent le patient, pardon. Et là, ce sera le cas, car ce médecin, qui sera peut-être le médecin traitant, effectivement, va devoir consulter d'autres médecins. ou soignants, infirmiers, aides-soignants, qui connaissent le patient. Donc il ne va pas le décider comme ça, je vous ai vu, je vous ai entendu, très bien, je décide que. Non, ça ne passera pas du tout comme ça, pas du tout.
Bruno Dalla Porta.
Oui, alors donc j'ai bien écouté François Blot et Martine Lombard. Il y avait des choses sur lesquelles on se retrouve totalement. À mon sens, il focalise sur l'individu, sur le court terme, et il manque la civilisation, la société et le long terme à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je pense que dans le périmètre de l'individu, de l'autonomie, de la demande, ok, on peut après se mettre d'accord, mais ce qui se passe, c'est que dans les médias, on focalise sur l'individu.
C'est-à-dire
qu'on va parler de Lynn Renault, on va parler de Françoise Hardy, on va parler d'Alain Finkielkraut, d'individu, alors qu'une loi symbolique, une loi morale, est faite pour protéger le plus grand nombre, le plus longtemps possible, oui. Universelle.
Là, on parle du fait que plusieurs médecins puissent recueillir la demande d'un patient d'aide à mourir.
Non, mais là, moi,
est-ce que ça fait partie du soin et de la mission du médecin, puisqu'on pose la question ce soir, est-ce qu'il faut opposer droit de mourir et devoir de soigner?
Voilà. Donc en fait, là, vous refocussez sur l'individu, le court terme, etc. Je comprends, c'est votre question, mais moi, c'est pas ma réponse. Donc ce que je vous propose, Martine Lombard et François Blot, c'est parce que là, on n'aura pas le temps de creuser tous ces arguments. Le 1er juin, on fait un événement avec une journée entière, avec on va essayer de sortir des soins palliatifs et de sortir des religieux et de sortir de la droite pour passer plutôt vers avec Roland Gori, avec Cynthia Fleury, avec Dominique Bourg. Et donc, je vous propose, si vous êtes d'accord, de venir.
Les auditeurs qui nous écoutent, je pense, pourront pas venir le 1er juin, donc ça les intéresse moins savoir votre opinion sur ce sujet-là.
Ce que je veux dire, c'est qu'il faut penser que une loi morale et symbolique est faite pour protéger les vulnérables longtemps après nous. Donc, si vous dépénalisez aujourd'hui, il y a un grand âge qui va aller crescendo, de plus en plus de personnes âgées, de moins en moins de personnes jeunes, et en réalité, vous mettez en danger les vulnérabilités.
Ça va ouvrir une sorte de boîte de Pandore.
Bien sûr, si on entrouvre la porte entrouverte devient grande ouverte 20 ans après. Donc si vous focussez, comme vous le faites, mais à juste titre, vous avez raison de le faire, sur l'individu aujourd'hui, etc., vous avez raison. Par contre, à partir du moment où on ouvre la porte, ça pose des problèmes à plus long terme.
On rappelle qu'il y a une clause de conscience qui est prévue dans le projet de loi pour les professionnels qui ne souhaiteraient pas pratiquer l'aide à mourir.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans les pays qui ont dépénalisé, en réalité, les indications augmentent. On passe aux mineurs, on passe aux personnes dépressives, on passe aux polypathologies, ce qui veut dire vieillesse, etc. Donc c'est un problème de société. C'est pas un problème d'individu, de demande. Et finalement, il y a trois camps dans cette histoire. Il y a le camp religieux, effectivement. Puisqu'on parlait de catéchisme, je suis absolument pas dans ce camp-là. Il y a le camp liberté, individu, maîtrise, ce qui est typiquement... Et je pense qu'on s'entend très bien d'ailleurs là-dessus, mais je pense que la différence, c'est que c'est pas un progrès, c'est l'entrée dans une grave dérégulation de la société. Et il y a le troisième camp, qui est le camp valeur du soin, qui est une valeur d'avenir, qui est une valeur d'écologie, une valeur de la démocratie. Donc ces valeurs du soin, c'est un trésor qu'il faut conserver.
Bon, en tout cas, je pense qu'on ne vous mettra pas d'accord sur ce sujet. Pour vous, le soin, et pour reprendre cette expression, la mort n'est pas un soin, des soignants correspond à votre sentiment, Bruno Dalla Porta, à la différence de Martine Lombard et François Blot qui n'opposaient pas droit de mourir et devoir de soigner. Merci beaucoup à vous trois. François Blot, praticien hospitalier en réanimation à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, auteur de Faut-il légaliser l'aide médicale à mourir? Bruno Dalla Porta, médecin, néphrologue, spécialiste en éthique médicale et en philosophie appliquée à la santé, co-auteur du livre Tuer les gens, tuer la terre. Et puis Martine Lombard, merci à vous. Professeur émérite de droit public à l'université Paris, Panthéon Assas, auteur du livre L'Ultime Demande. Merci à Arnold Assewa à la préparation de ce débat. Claude Battista à sa réalisation. Allez, 19h, bientôt 59 minutes ici à Paris. Vous êtes toujours à l'écoute de RFI. À suivre dans les prochaines minutes le journal de 20h de Marion Kazanov, puis Mardi Politique ce soir avec Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne, invité de Roselyne Fèvre et Frédéric Rivière. Juste après, ce sera l'heure d'Afrique Soir. Bonsoir Victorien Villaume.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Au programme ce soir,
eh bien, on va ouvrir l'Afrique Soir avec le Sénégal, Romain, et la cérémonie d'investiture de Bassirou Diomaye Faye. C'était tout à l'heure au centre des expositions de Diam Niadio, près de Dakar. On reviendra également sur la nomination de Judith Toulouka en tant que première ministre en RDC. Sachant que c'est la première fois qu'une femme occupe ce poste, on entendra l'avis d'une ONG. Et puis comme chaque mardi, Romain, de la musique avec Hervé Mandina, alias DJ Facemaker, qui nous fera écouter les pépites musicales qu'il a dénichées.
Eh bien, merci Victorien Villaume. Rendez-vous dans 30 minutes. D'ici là, le journal de 20h dans 30 minutes.